Bonjour.
Vous savez ce que c'est? Voilà, ici un cerveau de cadavre. Un cerveau, ça fait à peu près 1,3 kg, 1,4 kg. Il y a des cerveaux plus gros et des cerveaux plus petits. Entre les hommes et les femmes, la taille n'est pas la même, mais peu importe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que M. Broca, qui était un chirurgien en 1861, un chirurgien français, il a fait deux découvertes. Il avait un malade qui s'appelait M. Le Borgne et qu'on appelait Tan, parce que ce malade était ce qu'on appelle aphasique, à savoir qu'il avait perdu le langage. Donc, M. Le Borgne, quand on lui demandait « Comment est-ce que vous appelez ?», il répondait « Tan ». Quelle heure est-il ? Tan. Quel jour sommes-nous ? Tan. Voilà, donc on l'appelait M. Tan. Quand ce malade est décédé, le chirurgien a récupéré son cerveau, et là, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Voilà le cerveau de M. Le Borgne, du patient de l'époque. Vous savez que le cerveau a deux hémisphères, gauche et droite. Eh bien, il y a ici une sorte de trou. En fait, c'est là où se trouvait la lésion qui a été responsable de la perte de langage pour ce patient. Et le chirurgien, qui a eu un coup de génie, a dit, c'est parce que la lésion est du côté gauche du cerveau que ce patient ne peut plus parler. Si la lésion avait été à droite, il aurait pu continuer à parler. Donc il a trouvé pour la première fois qu'entre le cerveau gauche et droit, il y avait une différence. Deuxièmement, il a dit que parce que la lésion était ici, donc à l'avant du cerveau, c'était sans doute la raison pour laquelle il avait perdu le langage. Si la lésion avait été ailleurs dans le cerveau, peut-être qu'il aurait eu d'autres problèmes, mais il aurait pu continuer à parler. Donc c'est la première fois qu'on fait le rapprochement entre la position dans le cerveau de quelque chose, d'une lésion, et une perte de fonction. Et pendant des dizaines d'années, jusqu'à l'invention du scanner, on a appris le fonctionnement du cerveau de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on regardait des patients qui ne pouvaient plus voir, qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus ce que vous voulez, et quand ils mouraient, on récupérait leur cerveau, on les disséquait, pour voir à quel endroit se trouvait la lésion. Bon, c'est un peu barbare comme méthode, mais on a appris beaucoup de choses. Donc la grande révolution, c'est grâce à l'informatique et à la physique, on a pu faire des images de l'intérieur du cerveau sans avoir à les disséquer. Donc, vous connaissez tous le scanner à rayons X. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, donc je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Mais vous voyez, la révolution, quand même, ça a été qu'il était possible, à partir de 1972, de faire des images de l'intérieur du cerveau. Donc, voilà un malade qui a une tumeur. Donc, même si vous n'êtes pas médecin ou pas encore médecin, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont devenir médecin, vous voyez qu'il y a quelque chose que vous n'aimeriez pas avoir dans votre tête, c'est une tumeur, ici. Eh bien, grâce aux rayons X, couper l'ordinateur qui permet de voir très finement à l'intérieur du cerveau, vous pouvez voir la lésion sans avoir à disséquer. Donc, ça a été un gros progrès. Mais ça reste de l'anatomie. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le cerveau fonctionner. Alors ça, c'est une petite bande dessinée. Alors, vous êtes tous très doués en anglais, donc je suis sûr que vous comprenez la légende, mais je vais quand même vous le dire. Donc, en fait, ce sont des neurochirurgiens qui ont ouvert le crâne de leur malade, qui sont en train de toucher le roi dans le cerveau, et ça fait lever la jambe du malade. Alors, c'est une blague, mais c'est pas vraiment une blague. C'est vraiment ce que l'on fait, encore aujourd'hui, au bloc opératoire. Les patients qui sont endormis, eh bien, quand on leur touche le cerveau, ça fait pas mal. Donc, on les réveille pour éventuellement savoir précisément où on est dans le cerveau, si on en a besoin. Donc on a appris aussi beaucoup de choses, comme ça, mais vous voyez qu'il faut quand même opérer les gens, donc ça ne peut se faire que chez des malades. La grande révolution, c'est de pouvoir voir l'activité du cerveau, chez vous, chez moi, chez tout le monde, sans ouvrir le crâne, sans être malade. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous m'écoutez, ou si vous dormez? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, l'imagerie va nous permettre d'étudier cela, et le but de ma présentation, l'objet de ma présentation, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est loin d'être arrivé au bout, mais vous allez voir quand même qu'on a été très loin. Donc, on est passé de la dissection du cerveau à l'obtention d'images de l'anatomie du cerveau sans avoir à disséquer le cerveau, jusqu'à la possibilité de faire des images chez des gens tout à fait normaux pour montrer l'activité qui existe au niveau de leur cerveau. Alors l'imagerie par résonance magnétique, on appelle ça IRM, peut-être que certains d'entre vous en ont eu pour des raisons médicales, mais je vais vous expliquer en gros à quoi ça ressemble. Bon, voilà un scanner par IRM, ça repose sur l'idée qu'il y a un aimant extrêmement puissant. Vous voyez cet aimant ici, c'est un cylindre. Son champ magnétique, je ne sais pas si vous avez étudié le magnétisme, je suppose, est de 1,5 Tesla, comme je ne sais pas trop où vous êtes dans les unités. 1,5 Tesla, c'est pareil que 15 000 Gauss, c'était l'ancienne unité. Et comme vous le savez, le champ magnétique ici, un pari de 15e et de 0,5 Gauss. Donc cet aimant-là fait 30 000 fois le champ magnétique de la Terre. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre quelqu'un à l'intérieur de cet aimant? Eh bien, on va aimanter les noyaux des atomes qui le constituent. Et pendant toute ma présentation, je vais vous parler essentiellement de la molécule d'eau. Vous allez voir que la molécule d'eau est quelque chose est vraiment magique. Et ce qu'on va aimanter, ce sont les noyaux d'hydrogène qui constituent la molécule d'eau. Donc, quand vous rentrez dans l'aimant, c'est automatique, les noyaux d'hydrogène de vos molécules d'eau dans votre corps s'aimantent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chatouiller l'aimantation de ces noyaux avec des ondes radio. Les ondes radio, ce sont celles de vos stations de radio préférées, genre énergie, tout ce que vous voulez. Ce sont les mêmes ondes radio. Et ces ondes radio, quand elles sont envoyées sur la tête du volontaire, elles vont donc changer cette aimantation. Et en retour, grâce à des antennes, on va écouter comment le cerveau nous renvoie ces ondes. Voilà, donc il y a deux choses. Il y a un aimant pour aimanter l'eau, et des ondes radio et des antennes pour savoir ce qui se passe au niveau de l'aimantation de ces molécules d'eau. Et grâce à ça, on peut faire des images extraordinaires. L'image que vous voyez à droite, c'est un cadavre, c'est une coupe comme cela du cerveau, et vous voyez donc la matière blanche, je vais vous expliquer ça après, la matière grise, on voit beaucoup de détails, mais c'est un cadavre. Avec l'IRM, c'est un de mes collègues, tout à fait bien vivant, tout à fait bien portant, grâce à l'IRM, vous voyez qu'on est capable de voir également des détails très très fins entre la matière grise et la matière blanche, et les vaisseaux sanguins, etc. Donc ça a été une révolution, puisqu'on voit de façon très très précise l'intérieur du cerveau. Là, maintenant, c'est une coupe de profil, on voit donc le nez, la langue, et puis l'état de structure à l'intérieur du cerveau, que je ne vais pas expliquer, parce que ça nous prendrait trop de temps. Alors, il faut bien comprendre que tout ça, c'est possible, parce qu'il y a des biologistes, des médecins, qui travaillent avec des ingénieurs, avec des physiciens. Pour comprendre le cerveau, il faut des tas de compétences différentes. Bon, c'est rare que tout le monde sache tout, donc en général, c'est une équipe de plusieurs personnes. Vous voyez, par exemple, on est capable de faire des images comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'oreille interne. C'est une structure qui est au fond de l'oreille et qui sert à se tenir en équilibre. Donc, c'est extrêmement petit et on arrive à voir ça avec une grande précision. Ça, c'est ce qui est en train de se faire dans votre ventre en ce moment, après la cantine, à savoir que vous êtes en train de digérer. Donc, il y a un tas de mouvements. Vous voyez aussi le cœur qui bat, et le sang qui est chassé dans les artères, et puis la respiration, quand vous respirez, tout ça, ça bouge. Alors c'est un peu accéléré quand même, mais voilà. Donc on est capable de voir ça en temps réel, et on est capable également de voir les vaisseaux sanguins qui partent du cœur, de l'aorte, pour arriver dans le cerveau. Voilà, ça c'est banal. Vous allez à l'hôpital aujourd'hui, on sait faire ça, de façon relativement simple. Alors qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien c'est la recherche qu'on fait derrière. Vous avez tous un cerveau qui a à peu près, toujours la même forme. Ça ressemble à ça. Donc il y a l'avant, l'arrière, etc. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que le cerveau est extrêmement plissé, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, mais que ces plis sont à peu près les mêmes chez tout le monde, mais pas exactement. Vous voyez par exemple ici, il y a 150 cerveaux différents. Là, c'est un logiciel vidéo, comme un jeu. On a mis tous ces cerveaux ensemble. Et vous voyez que cette structure rouge ici, eh bien, elle varie d'un patient à l'autre. Donc on s'aperçoit que, ou d'un sujet normal à l'autre. Le cerveau est extrêmement variable, et une grande question pour nous, c'est de savoir comment le cerveau se fabrique. Voilà le cerveau d'un fœtus au sein de l'utérus de sa mère. Donc vous voyez qu'on est capable d'obtenir des images extrêmement précises. Vous voyez, le bébé, là, le fœtus est en train de sucer son pouce dans l'intérieur de l'utérus. Et on est capable, toujours grâce au logiciel que vous utilisez toujours sur vos consoles de jeu, on est capable d'extraire ces images, de les reconstituer en trois dimensions pour voir comment le cerveau apparaît après 24 semaines de grossesse, 27 semaines de grossesse, jusqu'à la naissance qui, vous savez, se fait à 39 semaines de grossesse. Et qu'est-ce que vous voyez immédiatement? Ben, c'est que le cerveau est tout lisse au début et qu'il va être de plus en plus plissé. Alors pourquoi? C'est très important à comprendre. Donc, je fais une petite explication. Peut-être que vous savez tout ça, mais enfin, je vous rappelle, ça sera pas mal. Alors, le cerveau, ce sont essentiellement des neurones, cellules nerveuses, et pendant la grossesse, ces neurones sont produits au centre du cerveau, une sorte de tuyau, si vous voulez, et en très grand nombre. En gros, il y a 250 000 neurones produits à la minute pendant la grossesse. 250 000 neurones par minute. Si vous voyez l'usine de neurones que ça peut être. Donc ces neurones, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils n'ont plus de place. Donc ils vont aller c'est aller plus loin. Donc ils vont aller à la surface du cerveau, et comme il y a un grand nombre de neurones à caser, il y en a 100 milliards à la fin, à la naissance, eh bien le cerveau doit être extrêmement plissé, comme les côtes bretonnes, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plages, pour arriver à caser tout le monde. Donc la matière grise, c'est tous les neurones qui ont migré à la périphérie du cerveau, et la matière blanche, en fait, ce sont les câbles, plus ou moins électriques, qu'on appelle les axones, vous avez peut-être tout ça, qui relient les régions cérébrales. Donc les neurones sont partis de là, ils ont migré ici, et ce qui reste ici, ce sont les fils qui relient les différentes régions cérébrales entre elles. Alors grâce à l'imagerie, on peut voir ça de plus en plus, et j'ai un petit film, s'il marche, je ne sais pas, il s'agit de souris, un embryon de souris, en IRM, et vous allez voir qu'on est capable de voir comment l'embryon de souris passe de rien du tout à une vraie souris. Bon, c'est autant accéléré. Regardez, c'est quand même extraordinaire. Hein. Vous voyez donc, c'est pas un film artificiel, ce sont de vraies images. Regardez en particulier comment les pattes apparaissent chez la souris, hein, petit à petit. Et vous savez sans doute que pendant la grossesse, on repasse un peu par les étapes du développement des espèces. Voilà, donc c'est ça qu'on est capable de faire avec nos images, et on espère voir de plus en plus l'intérieur du cerveau, comment le cerveau se fabrique. Donc je remonte toujours ce cerveau, qui est un vrai cerveau, mais de quelqu'un qui est mort, alors que grâce à ce que l'on fait en physique, en informatique, etc., on est capable de faire des cerveaux, de voir des cerveaux de quelqu'un tout à fait bien portant, comme sur des jeux vidéo, et de se repérer à l'intérieur, de voir des choses de plus en plus subtiles. Donc je vous ai dit déjà que le cerveau est extrêmement variable, mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important pour vous, c'est que quand on naît, on a un capital, 100 milliards de neurones. Et après, on ne va faire que perdre des neurones, toute la vie. Même déjà vous, vous en avez déjà perdu un paquet. Moi je ne vous dis pas. Voilà, donc, comment est-ce que c'est possible? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de neurones. Ce qui compte, c'est comment les neurones se connectent. À la naissance, chaque neurone est connecté à environ 500 autres neurones, en moyenne. À votre âge, chaque neurone est connecté à peu près à 10 000 autres neurones. Donc imaginez, vous avez un iPhone ou un téléphone portable, et bien quand vous l'achetez, vous avez 500 contacts, et au bout d'un certain temps, vous en avez 10 000. Alors imaginez toutes les combinaisons possibles. C'est ça qui fait que le cerveau fonctionne. Et c'est vous qui choisissez. Quand vous naissez, en fait, vous n'êtes pas complètement innocent, puisque tout ce qui s'est passé dans le ventre dans l'utérus, dans le ventre de votre mère, a déjà influencé le cerveau. Mais bon, oublions. À la naissance, vous avez un capital, et ensuite, c'est à vous de l'utiliser. Et l'interaction que vous allez avoir dans la société, avec vos parents, avec les professeurs à l'école, bien entendu, vont faire que votre cerveau va changer. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une image du bas du cerveau, qu'on a faite chez des chauffeurs de taxi londoniens. Les chauffeurs taxi londoniens, ils ont la réputation d'être excellents. Quand on leur demande exactement où aller, ils savent. C'est pas le cas à Paris, hein, ou dans d'autres villes. Ils savent parfaitement parce qu'ils ont 2 ans d'entraînement en vélo dans le brouillard londonien pour repérer les routes. Donc en gros, ils ont une sorte de GPS dans le cerveau. Et ce GPS, c'est une région qui s'appelle l'hippocampe, qui sert à la mémoire et qui est ici. Et bien ce qu'on a montré, c'est que les chauffeurs taxi londoniens, ils avaient cette région cérébrale qui était plus grande que les gens normaux. Donc ils sont tellement entraînés leur mémoire qu'ils ont hypertrophié cette partie du cerveau. Les chauffeurs de bus, eux, ils n'ont pas hypertrophié. Parce que les chauffeurs de bus, ils ont toujours la même ligne, ils n'ont pas besoin de mémoriser grand-chose. Maintenant, si je vous demande à vous, là, de vous entraîner tous les jours pendant 10 minutes à jongler, hein, comme les jongleurs au cirque, au début vous n'allez pas y arriver, puis petit à petit vous allez y arriver. Eh bien, ce qu'on montre, c'est que votre cerveau, c'est comme de la pâte à modeler, vous êtes en train de changer quand vous faites ça. Par exemple, ici, ce que l'on voit en étage jaune dans le cerveau de ces jeunes personnes qui ont fait ce test, c'est que les régions qui servent à contrôler dans l'espace la vision, avoir la vision, le mouvement, s'hypertrophient. Parce que pour jongler, c'est important. Je suis sûr que parmi vous, il y a des musiciens. Eh bien, le cerveau du pianiste, c'est pas la même chose que le cerveau du violoniste. Et ce n'est pas la même chose que le cerveau du non-musicien. Par exemple, le pianiste, on voit qu'il a des régions plus développées que les autres pour l'interférence entre les mains, pour la combinaison des mouvements des deux mains. Voilà, donc vous, vous avez tous des talents, vous savez tous des choses particulières. Je sais que, parce que j'ai aussi des enfants, taper sur son portable avec le pouce à toute vitesse, je ne sais pas faire, ça doit développer des régions cérébrales. Voilà. Donc, en permanence, vos professeurs, sans que vous le sachiez, sans qu'ils le savent non plus, vous hypertrophient, j'espère, si ça marche, des régions cérébrales qui vont faire que vous allez être doué, que vous allez apprendre des choses particulières. Voilà, donc votre cerveau, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui en êtes en charge. Vous avez un capital, à vous l'utiliser le mieux possible. Donc maintenant, on veut faire mieux. Je vous ai parlé d'anatomie. À savoir, on regarde comment le cerveau est fabriqué. Mais on veut faire mieux. Quand vous regardez cette image, l'information arrive sur vos yeux. De là, elle va partir sur les nerfs optiques. Ici, il y a une petite structure qu'on appelle le chiasma optique, où les fils se croisent, si vous voulez. Et ça va arriver à l'arrière de votre cerveau, qui sert à voir. C'est un peu comme une caméra de votre appareil photo, c'est-à-dire l'arrière les capteurs de vos appareils photo ou des téléphones. Et puis, une fois que ça arrive là, ça va repartir vers l'avant du cerveau, pour que vous puissiez reconnaître ce que vous voyez. Donc c'est ça qu'on voudrait voir. Eh bien c'est possible. Comment? Bon, je vous explique un petit peu l'idée. On s'est aperçu, il y a longtemps déjà, en 1894, que dans les régions du cerveau qui étaient en train d'être actives, il y avait un peu plus de sang qui arrivait. Voilà, donc le cerveau consomme un peu plus de sang quand il marche. Mais dans les régions qui sont en train d'être utilisées, pas ailleurs. Dans le sang, vous savez que le sang est rouge. Vous savez pourquoi il est rouge? Parce qu'il y a des globules rouges, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans les globules rouges? De l'hémoglobine. Eh bien, l'hémoglobine, voilà sa structure moléculaire, elle contient en son centre un atome de fer. Alors, vous comprenez tout de suite que fer, aimant, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Eh bien, en gros, je résume à l'extrême, hein, quand vous avez des globules rouges qui circulent dans les petits vaisseaux sanguins, c'est comme si c'était des petits aimants. En gros, ils s'aimantent à cause du fer, de l'hémoglobine. Et l'eau que l'on regarde pour faire des images, voit passer ces petits aimants, et donc change les ondes radio qu'elle va vous envoyer. Voilà, donc, je simplifie, mais quand vous regardez cette image, si vous êtes dans un aimant d'IRM, eh bien, dans les régions que vous êtes en train d'utiliser, il y a un peu plus de sang qui arrive, et ce sang va modifier l'aimantation des molécules d'eau partout où vous êtes en train d'utiliser votre cerveau. Et grâce à un ordinateur, ensuite, et un logiciel, on va mettre en couleur les régions du cerveau qui sont en train d'être activés. Donc vous voyez par exemple, quand vous regardez l'écran, c'est exactement ça qui se passe. Là c'est une coupe du cerveau qui passe comme ça, d'avant en arrière, l'avant et l'arrière. Donc tout ce gros pataquès là, c'est toutes les régions visuelles qui sont en train de voir. Et ces deux petites structures là, les deux petits points, ce sont les relais dans les fibres, dans les fils qui relient les yeux à l'arrière du cerveau, donc que l'on voit activer. Donc ça c'était quand on a inventé cette méthode, bon, j'étais à l'époque aux États-Unis, c'est le monsieur Ogawa qui est un de mes amis qui a vraiment inventé cette méthode. On était très fiers de pouvoir voir pour la première fois l'activité du cerveau chez des gens qui étaient simplement allongés dans les mains. On leur injecte rien ne se passe, vous ne sentez rien, et on voit ça. Mais bien sûr, on peut faire mieux. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un chat, vous êtes normalement tous capables de le faire. Donc tous les chats sont différents, et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que c'est possible d'imaginer un chat? Est-ce que par hasard, de voir un chat dans votre tête, c'est la même chose que de voir un vrai chat? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des régions cérébrales qui seraient les mêmes? Donc vous voyez par exemple cette structure-là, l'air du cerveau, vous savez maintenant que c'est celle qui sert à voir le monde réel, mais est-ce que par hasard, c'est la même région qui sert à voir le chat imaginaire? Alors on a fait l'expérience. À quoi ça consiste une expérience? On met quelqu'un dans l'aimant, et puis on lui dit, dans le noir, tout, les yeux fermés, chat. Et la personne a 6 secondes pour imaginer le chat. Bon. Au bout de 6 secondes, il y a un bip sonore, stop. Et là, on lui dit, 14 secondes plus tard, comment sont les oreilles du chat? Donc vous êtes obligé d'aller revoir votre chat. C'est pas, est-ce que le chat a 4 pattes, ça, vous le savez. Donc, est-ce que les oreilles sont pointues? Voilà. Et pendant ce temps-là, on va regarder l'aimantation de nos molécules d'eau. En même temps que les gens sont en train de faire ça. Donc voilà une image du cerveau qui passe à peu près par le milieu, l'avant, l'arrière. Vous savez maintenant très bien que toute cette région-là sert à voir. Eh bien, regardez ce qu'on observe, c'est que quand on imagine le chat, donc de façon complètement dans la tête, quoi, eh bien, on utilise également cette partie du cerveau qui sert à voir le monde réel. Le monde réel et le monde imaginaire, finalement, ne sont pas si différents que ça. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez, encore une fois, la personne est dans l'aimant, elle pense simplement à un chat, ou aux oreilles du chat, et l'aimantation des molécules d'eau dans cette région-là va changer, par la pensée. C'est quand même extrêmement fort. Vous voyez, en plus, qu'on voit l'aimantation qui change des molécules d'eau quand la personne est en train d'imaginer le chat, et puis quand on lui demande si les oreilles sont pointues, vous voyez qu'il lui faut faire plus d'efforts, presque, parce que la réponse est plus grande. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant chez un aveugle de naissance qui n'a jamais rien vu? Est-ce que cette région du cerveau est morte ou qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai un collègue japonais qui a fait l'expérience. Et c'est extraordinaire. Il a trouvé que cette région-là était activée quand ces aveugles lisaient le braille avec leurs doigts. Comment on dit, ils voient vraiment avec leurs doigts, ils sentent l'espace avec leurs doigts, puisque vous savez que le braille, c'est de relier des points dans l'espace, ils sentent l'espace, et la partie du cerveau qui va leur décoder cet espace, eh ben, c'est la même que nous, qui décode l'espace visuel. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir quand même des idées sur ce qui se passe dans le cerveau, et vous allez voir que ça va encore beaucoup, beaucoup plus loin. Je vérifie que je ne suis pas en retard. Maintenant, le cerveau, dans cette partie visuelle, c'est vraiment comme ce qui se passe dans votre caméra d'appareil photo, où vous avez, avec un objectif, donc l'image qui est projetée, en général le haut arrive en bas, ce qui est à gauche est à droite, c'est exactement la même chose. Donc si on arrive à faire des images détaillées de l'arrière de notre cerveau, on peut plus ou moins reconstituer l'image que la personne est en train de voir. Donc en particulier, l'expérience qu'on a faite, c'est que si je vous présente un objet vertical, un stylo, ou un objet horizontal, je ne vais pas voir la même chose. Ça, c'est quand je vois un objet horizontal. Ça, c'est quand je vois un objet vertical. C'est pas la même chose. L'ordinateur voit tout de suite que c'est pas la même chose. Et puis ensuite, vous demandez à la personne, les yeux fermés, est-ce que tu peux imaginer un objet horizontal ou vertical? Tu ne nous dis pas comment il est. On regarde nos images, et là, on peut dire, il est en train d'imaginer un objet horizontal, il est en train d'imaginer un objet vertical. Et on commence à lire plus ou moins la pensée. On n'a pas la couleur de l'encre, on n'a pas la marque du stylo, mais on arrive. Alors, récemment, on a compliqué un petit peu cette expérience. On a montré à nos volontaires, donc c'est des gens comme vous, hein, des lettres, H, L, A, etc. Et on leur a demandé d'imaginer ces lettres, un A, un H, etc. Eh bien, donc, avec un succès de plus de 90%, on est capable de voir qu'ils sont en train de penser un H, de penser un A, de penser un L, etc. Vous voyez donc que ça commence à devenir quelque chose d'extrêmement discret, presque. Et là, ce que j'ai montré sur cette diapositive va même encore plus loin que ça. Ici, vous voyez un de mes collègues japonais qui est en train de jouer à ce jeu, vous savez, ciseaux, papier, pierre. Hein, donc, on fait comme ça. Vous connaissez le jeu, je suppose. Oui, bon. Et donc, il est en train de faire ses mouvements. Pendant ce temps-là, un ordinateur regarde les images qui viennent de son cerveau, les décode. Et l'ordinateur pilote, parce qu'au Japon, ils sont très fans des robots, pilote une main d'un robot. Et le robot est en train de faire la même chose que la personne qui est dans l'aimant. Mais ce qui est plus fort aujourd'hui, c'est que la personne n'a même plus besoin de bouger les doigts. Il suffit de penser, ça, de simplement de penser, et la main du robot est en train de faire exactement la même chose que c'est en train de penser. Donc, voilà où on en est. Ce qui est très intéressant, parce que bon, là, ça fait un peu gadget. Mais imaginez un malade qui est hémiplégique ou paraplégique, eh bien, on peut lui donner la possibilité de piloter des objets par la pensée. Toyota, au Japon, a commercialisé une chaise roulante pour handicapés qui est pilotée par la pensée. Donc le patient dit tout droit à gauche, enfin, c'est en japonais, hein, mais peu importe, tout droit à gauche, sinon la machine ne comprend pas, et la chaise roulante suit le mouvement. Alors on va encore plus loin maintenant. Est-ce qu'on peut lire la pensée chez des gens qui n'en ont peut-être plus? C'est-à-dire les gens en coma ou dans un état végétatif. Donc l'expérience a été faite, d'abord une première fois, puis a été répétée. C'est les images qui sont à droite. C'est une jeune femme de 26 ans qui a eu un accident de voiture, qui est dans le coma, état végétatif. Rien ne se passe. Ce que font les médecins pour savoir quelle profondeur du coma, ils vous tordent, ils vous pincent, ils vous font des tas de petits trucs comme ça. La patiente, rien. Elles l'ont mise dans l'aimant. Et ils lui ont dit, madame, comment vous appelez-vous? Alors la dame, rien. Et dans l'aimant, ce que l'on voit, c'est que les régions qui correspondent au langage s'activent. Donc elle répond dans sa tête à la question que vous lui posez. alors que vous ne voyez rien. Quand vous lui demandez, madame, est-ce que vous pouvez imaginer que vous jouez au tennis? Rien, rien ne se passe. Mais ce que l'on voit, c'est que les régions qui sont activées quand les gens imaginent qu'ils jouent au tennis, voilà ce qui se passe chez quelqu'un de normal, c'est la même chose. Quand on lui a demandé, pouvez-vous imaginer que vous êtes en train de vous promener dans votre maison? Eh bien, vous voyez qu'elle active des régions cérébrales qui sont les mêmes que quelqu'un de normal. Donc, on est en train de se percevoir que des gens qui sont dans un état végétatif ou de coma, certains en tout cas, sont conscients, sont capables de communiquer même. Donc, ça c'était une des premières révélations, ça date de 2006. Mes collègues belges qui sont derrière cette étude ont maintenant étudié pas mal de patients. À peu près 15% d'entre eux sont capables de communiquer et on peut aller beaucoup plus loin. Donc, chez ces patients qui sont dans le coma, pas tous, hein, on est capable maintenant de leur donner un code. Par exemple, on leur dit maintenant, je vais poser des questions plus difficiles. Si vous répondez oui, vous imaginez que je joue au tennis. Si vous voulez dire non, vous imaginez que vous prenez votre maison. Donc il suffit de faire les images, poser une question, vous regardez, et oui, non. Et mes collègues sont arrivés carrément maintenant à faire des images où on parle de lettres, A, B, C, D, etc. Comme dans le film Le scaphandre et le papillon. Mais dans Le scaphandre et le papillon, la personne, elle bouge les yeux. Là, ces gens-là, ils ne bougent rien du tout. Ils sont complètement ailleurs. Eh bien, on arrive à leur faire communiquer, à avoir des informations de leur part. Donc, vous voyez jusqu'où on va aujourd'hui avec l'imagerie. On peut même encore aller plus loin et faire du temps réel. Bon, le temps réel, pour vous, c'est du quotidien avec vos jeux vidéo. Mais imaginez que vous êtes en train de voir votre cerveau en train de travailler, en train de faire vos jeux vidéo. Ça, c'est intéressant. Alors, on fait des expériences comme ça, hein, sur les jeux vidéo, mais là, je ne vous montre pas ça. Il s'agit de patients qui ont des douleurs assez importantes et qu'on n'arrive pas à supprimer. Donc, on les met dans l'aimant et on leur montre les régions qui sont impliquées dans la douleur. Et on leur dit, vous voyez, c'est comme un feu, là. Essayez de penser très fort à éteindre ce feu. Donc, s'ils y arrivent, cette couleur disparaît. L'aimantation des molécules d'eau va s'atténuer. Et ça veut dire que la région cérébrale qui est en dessous est moins active. Donc ça veut dire qu'ils ont moins mal. Et effectivement, c'est ce qu'on voit, bon c'est des courbes scientifiques, hein, mais ce que l'on voit, c'est qu'ils sont capables de piloter leur propre cerveau et d'apprendre à contrôler leur douleur. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont sortis de l'aimant, ils sont capables, en pensant maintenant, simplement par la pensée, de diminuer la sensation douloureuse. Et dans la toute dernière étude qui vient d'être faite par mes collègues hollandais, ils ont pris des patients déprimés, donc des gens qui sont sous médicaments, les médicaments ne marchent pas du tout, sont toujours tristes, enfin ça ne va pas quoi. Et dans la machine, on leur montre la région de la joie, du plaisir, enfin les régions qui sont activées quand on est content, quand ça se passe bien. On leur dit, essayez, parce qu'ils n'y arrivent pas, essayez d'imaginer que vous êtes heureux, que voilà, tout se passe bien, c'est dur, et puis il y a une petite étincelle qui apparaît, donc ce n'est pas cette région-là, c'en est une autre, mais c'est la même idée, une petite étincelle qui apparaît sur nos images, on dit, bah, écoutez, essayez de la garder, essayez de continuer, et petit à petit, les gens, en se forçant à faire apparaître cette image-là, finissent par être capables de contrôler eux-mêmes l'apparition de sentiments positifs, et certains sont guéris. C'est-à-dire qu'ils sortent de la machine, et pendant plusieurs semaines ou mois après, ils sont guéris, ils ne sont plus déprimés. Voilà, donc, voilà à quoi peut servir l'imagerie. Je continue. Le bilinguisme. Vous apprenez tous des langues étrangères. Eh bien, on s'est aperçu que, là, c'est une vue de l'anse du cerveau, c'est la fameuse région de M. Broca, du début de mon exposé, la région du langage, enfin, une des régions du langage. Eh bien, on s'est aperçu que chez des gens qui étaient complètement bilingues, du genre des enfants qui sont nés à l'étranger et qui parlent les deux langues, eh bien, quelle que soit la langue utilisée, ils utilisent la même région de leur cerveau. Par contre, vous, comme moi d'ailleurs, quand on apprend une langue étrangère après 10 ans, eh bien on s'aperçoit qu'il y a deux régions. Une pour la langue maternelle et une pour la langue qu'on a apprise. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon dans l'autre langue, mais ça veut dire que les mécanismes qu'on utilise dans notre cerveau pour parler une langue étrangère ne sont pas ceux de la langue maternelle. Voilà. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est effectivement une des preuves pour laquelle il faut apprendre des langues étrangères le plus tôt possible, en fait. Maintenant, je vous ai dit que le langage était à gauche. C'est pas vrai chez tout le monde. C'est vrai chez 85% d'entre nous. Mais à quel âge est-ce que le cerveau se câble pour avoir le langage du côté gauche? On n'en sait rien. Et pourquoi, surtout, le langage est à gauche et pas à droite? Pourquoi? On ne sait toujours pas. Par contre, on a fait cette expérience chez des bébés de 2 mois. On les a mis dans notre aimant. C'est pas facile, hein. Faut qu'ils dorment, il faut quand même qu'ils écoutent. Enfin, c'est tout un. C'est difficile. Et on a enregistré la voix de la mère, qui leur dit quelque chose, peu importe quoi. Et ce qu'on s'aperçoit, parce que les bébés de 2 mois, je ne sais pas si vous avez des bébés de 2 mois dans votre entourage, mais ça ne parle pas. Hein. Ça ne, d'accord, bon. Non, je préfère le rappeler quand même. Eh bien, bien qu'ils ne parlent pas, on s'aperçoit qu'ils activent le côté gauche du cerveau, pas le droit, quand ils écoutent la voix de la mère, quand ils écoutent du langage. Exactement comme chez l'adulte. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que, on est un peu vicieux, on a passé la voix, la langue, l'enregistrement de la mère à l'envers. Donc la mère dit quelque chose, mon petit chéri, machin, etc. Et puis à l'envers, ça fait... Mais c'est les mêmes fréquences, et ça ressemble à du langage, sauf qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, le bébé de 2 mois, qui ne sait toujours pas parler, eh bien, on s'aperçoit que dans certaines régions du cerveau, en particulier dans la région à l'avant, ici, quand il entend la voix de la mère dans le bon sens, il répond, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on lui passe la bande à l'envers, rien. Comme on dit, le bébé de 2 mois est déjà capable de faire la différence entre ce qui a vraiment du sens et ce qui n'en a plus. Vous voyez, donc faites attention, la prochaine fois que vous voyez un bébé de 2 mois, même s'il ne parle pas, attention à ce que vous dites, on ne sait jamais. Et ce qui est très intéressant, je vous ai dit qu'on a 100 milliards de neurones à la naissance et qu'après, tout ça disparaît. Eh bien, si on ne développe pas les propriétés particulières de notre cerveau, elles disparaissent et elles risquent de disparaître à vie. Je donne l'exemple du langage japonais, parce que je suis professeur au Japon et je parle un peu japonais, mais... Quand, en japonais, il n'y a pas de R. Enfin, il y a du cas de japonais ici, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il y en a qui parlent japonais. Donc, il n'y a pas de R. Bon, donc, il y a un R, et donc le son long et le son donc, ça s'entend de la même manière pour les japonais. Rond et long, il n'y a pas de différence. Par contre, le bébé japonais de 2 mois, lui, sait faire la différence. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir? Pas besoin de faire des images, vous mettez une tétine dans la bouche du bébé, et puis vous lui dites long, 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 rond. Et le bébé, il chuchote beaucoup plus vite parce qu'un bébé, vous savez, le bébé, c'est une machine à apprendre. Hein. Vous aussi, mais moins peut-être, mais le bébé, il est là que pour apprendre. Donc, s'il entend long, 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 long et rond, il s'est aperçu que ça avait changé. Donc, il sait faire la différence. À partir de l'âge de 1 an, le bébé japonais, terminé, long, 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 rond, c'est pareil. Parce que dans l'environnement qu'il a tous les jours de ses parents, il n'y a pas ce son R. Par contre, le bébé japonais qui a immigré en France, bébé, tout petit, lui, il sera capable toute sa vie de faire la différence. Voilà. Et moi, c'est pareil pour l'anglais. Je sais, pour beaucoup d'entre vous, les Français, on n'est pas bon pour dire the. Hein, donc, parce que, on n'a pas appris the. On n'a pas appris à dire the à l'âge qu'il fallait. Voilà. Alors, on peut même aller encore plus loin sur la conscience et le langage. L'expérience que l'on fait, par exemple, avec Stanislas Dehaene, c'est de présenter sur l'écran un flash avec un mot. Ça fait ça. Lion. Chat. Chien. Ce qu'on montre, c'est que si vous avez ces flashs-là, votre cerveau est si rapide que vous pouvez me dire « j'ai vu le mot lion ». Très bien. Et votre cerveau, quand on regarde ce qui se passe, tout ça s'active. En fait, cette région-là sert à comprendre, à entendre, à comprendre que c'est des mots. Et cette région-là, c'est la fameuse région de Broca, même si vous dites rien, vous avez envie de dire Lyon. Voilà. Si je change un tout petit peu l'expérience, c'est-à-dire que avant et après chaque mot, je vous mets des caractères aléatoires comme ça. Donc le mot est juste caché entre 2 séries aléatoires. On montre que dans ce cas, la lecture est subliminale. À savoir, si je vous demande, est-ce que vous avez vu un nom d'animal? Vous ne savez pas. Et si je vous dis, par hasard, je vous donne 4 mots. Lion, chat, éléphant et souris. Et vous avez, lequel vous avez vu? Et il y a 1 chance sur 4 pour que ce soit lion. Donc les gens ne savent pas qu'ils ont vu un mot. Les gens ne savent pas. Mais leur cerveau sait. Puisque, voilà ce qu'on voit dans ces cas-là. On voit que la région qui détecte les mots a été activée. Et on voit même que la région de Broca a commencé à être activée. Autrement dit, le cerveau a vu un mot. Donc vous le connaissez. Et parce qu'il est masqué, votre cerveau, en gros, vous dit, ça ne va pas être important, je ne vais pas te déranger pour ça, je ne vais pas te réveiller pour ça, donc on oublie. Voilà. Et la conséquence de ces études est très importante. Vous conduisez une voiture. Vous n'avez pas tous votre permis, mais bon, vous conduisez votre scooter ou ce que vous voulez. Vous faites attention. Imaginez donc une conductrice ou un conducteur dans sa voiture qui prend son portable. Eh bien, vous ne pouvez pas faire attention à deux choses en même temps. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez qu'il y a deux sortes de régions. Des régions qui sont activées en subliminal et des régions qui sont activées vraiment quand vous faites attention à ce que vous faites. Donc, si vous conduisez et que vous faites attention à votre conduite, vous dites n'importe quoi à la personne qui est au téléphone. C'est pas trop grave. Et si vous faites attention à ce que vous dites au téléphone, votre cerveau il est dans cet état-là pour le téléphone. Et il est dans cet état-là pour la conduite. Donc, si un vélo arrive, votre cerveau est en permanence en train de détecter ce qui va se passer. Donc, votre cerveau va dire, ouh, il y a quelque chose qui arrive. Il faut reprogrammer tout le cerveau pour passer dans un état où l'attention sur la conduite devient plus efficace. Ça prend pas longtemps, une seconde, mais ça peut être trop tard. Voilà, donc, voilà pourquoi il ne faut pas téléphoner quand on conduit. On a des preuves. Bien, vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Bon, donc, votre cerveau n'est pas plein, donc ça ne s'est jamais plein un cerveau. Alors, de toute façon, on va passer un cran au-dessus pour vous expliquer ce qu'est l'imagerie de diffusion. Parce que c'est ce que j'ai inventé, donc j'en suis assez fier. Bon, vous savez ce que c'est que la diffusion, le mouvement brownien, tout ça? En physique, vous avez étudié ça? Pas du tout? Non? Bon. Bon, faut revoir les programmes, là. Donc, le mouvement brownien, c'est le fait que toutes les particules de l'univers, les atomes, les molécules, tout, sont agitées en permanence parce qu'elles ont une énergie thermique, ces particules. Et c'est Einstein qui, pour la première fois, a quantifié ce mouvement de marche aléatoire, donc les particules marchent complètement au hasard, avec une équation, c'est la seule que je vous montre. Ouais. Donc, on peut mesurer la distance à laquelle les molécules diffusent en fonction du temps, et je vous fais grâce des détails. Donc, l'idée, c'est de se dire, ce patient, il va pas bien. Il a une tumeur ou quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Si j'étais capable d'avoir des images où je peux voir les cellules une par une, je pourrais peut-être mieux comprendre. Malheureusement, on ne sait pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les molécules d'eau et on va les considérer comme des espionnes. Ces molécules d'eau, elles vont se balader dans le tissu cérébral et à chaque fois qu'elles rencontrent des obstacles, comme les membranes des cellules, les fibres, leur mouvement va être interrompu. Eh bien, grâce à la technique que j'ai inventée, donc ça fait un bout de temps maintenant, ça fait 25 ans, on est capable de faire des images de la diffusion de l'eau. Alors, vous avez sans doute étudié l'eau en physique, quand même. L'eau, c'est vraiment une molécule extraordinaire. On dit que c'est la molécule de la vie. Est-ce que vous savez pourquoi? Je suis sûr que non. En fait, on ne sait pas vraiment. Alors, c'est pas étonnant que vous ne sachiez pas. Vous savez quand même que l'eau, c'est H2O. Deux parts d'hydrogène, une d'oxygène. Et Monsieur Lawrence, il a dit, il y a une troisième chose qui fait que c'est de l'eau, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. En particulier, vous voyez la Terre là, l'eau est liquide à la température ambiante. Ça ne devrait pas. Ça devrait être un gaz. Vu la taille de la molécule, l'eau ne devrait pas être liquide. La glace ne devrait pas flotter sur l'eau. Tous les autres corps, quand la glace se forme, le solide est plus dense que le liquide et ça tombe au fond. Donc l'eau a des structures, une structure complètement anormale. Et cette structure, elle est liée à cet angle magique ici de 104,5 degrés. C'est l'angle qui existe entre les deux atomes, l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Hein, c'est cet angle-là qui rend la molécule d'eau si spéciale. Donc ça, vous avez dû étudier. Ça, on vous l'a peut-être caché. C'est que tout ça, ça bouge en permanence. Donc c'est très dynamique. Et que l'eau dans un verre d'eau, c'est horriblement compliqué, à tel point qu'on ne sait toujours pas ce que c'est vraiment. Donc les molécules d'eau s'organisent en groupe de 4, parfois en groupe de 3, etc. Enfin, je vous passe les détails. Ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a des tas de recherches qui se font sur la molécule d'eau pour savoir ce que c'est, parce qu'on n'a pas tout compris. Alors maintenant, on arrive au cerveau. Le cerveau, c'est comme 80% de flotte. 9 molécules sur 10 de votre cerveau, c'est une molécule d'eau. Et pourtant, on se débrouille pas mal quand même. Hein. Donc, Pollack, un de mes collègues, a dit que les biologistes ont complètement oublié l'eau, comme les poissons dans l'aquarium, enfin, donc dans l'océan, c'est pareil, ça revient au même. C'est tellement naturel. Donc, la cellule, on passe de la physique à la biologie, je vous ai dit qu'il fallait tout mélanger. Hein. La cellule, donc, est entourée d'une membrane, voilà l'eau intracellulaire, l'eau qui est à l'extérieur de la cellule. Comment est-ce que l'eau passe à travers? Eh bien, Peter Agri, donc il a eu le prix Nobel, a découvert, parce qu'il a tout compris, que les molécules d'eau passent à l'intérieur de la membrane cellulaire grâce à des mécanismes extrêmement spécifiques. Comme on dit, chaque atome est orienté par la cellule pour passer dans la membrane. Donc ça, on commence à connaître, et on s'aperçoit par exemple que la migraine ou l'épilepsie serait peut-être liée au fait que les molécules d'eau n'arrivent pas à passer correctement à travers les membranes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la cellule? On ne sait pas vraiment. Ça, ce sont des sushis, ce n'est pas un cerveau. Est-ce que vous savez comment distinguer un sushi frais d'un sushi pas frais? Comment? La couleur, oui. Il y avait une autre explication. Oui, certes, mais c'est vraiment quand il n'est pas frais, là. Vous prenez vos baguettes et vous appuyez sur le sushi. S'il est frais, il y a de l'eau qui va sortir. Donc, où est l'eau? Le poisson est mort quand même, hein, normalement. Donc, en fait, l'eau, elle est complètement attachée. L'eau, donc, à cause de cette polarité entre l'oxygène et l'hydrogène, il y a un côté qui est plus négatif, un côté qui est plus positif. Donc l'eau, elle reste attachée, collée aux protéines du sushi. Eh bien, c'est encore des travaux en cours, hein, donc que je suis en train de faire. J'ai fait l'hypothèse que près de la membrane, où il y a plein de charges, les molécules d'eau, elles restent plus ou moins collées. Donc, le mouvement de diffusion de l'eau près de la membrane, il a du mal à se faire. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, si je sais faire des images, je reprends tout à l'heure, de ce patient-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre, il a bouché une artère. Donc, c'est ce qu'on appelle un infarctus cérébral. Et dans les heures qui vont suivre, le territoire qui est derrière va mourir. À vie. C'est-à-dire que la personne va être aphasique, on ne pourra plus parler, hémiplégique, quelque chose va lui arriver, elle peut mourir, hein, bien sûr. Et si elle ne meurt pas, c'est quelqu'un qui va être paralysé à vie. Alors, vous imaginez donc pour la personne, pour l'entourage, le coût pour la société, etc., c'est un drame. Eh bien, ce qu'on a découvert, grâce à cette technique, c'est que dans les régions qui sont en train de mourir, mais qui ne sont pas complètement mortes, le mouvement de diffusion de l'eau ralentit. Alors, comment est-ce que c'est possible? C'est encore une théorie, ça c'est sûr. Maintenant, je vous expliquais pourquoi c'est tellement important. Mais en fait, c'est que quand les cellules sont en train de mourir, elles commencent à gonfler. Donc la quantité de membrane augmente. Donc il y a plus en plus d'eau à diffusion lente qui apparaît. Alors pourquoi j'en parle? Si vous avez près de vous quelqu'un, vos parents, vos grands-parents, etc., qui est très très mal à la poitrine, bon, vous appelez le SAMU, vous savez qu'il y a un infarctus du myocarde qui est en train de se passer. Ben, il y a 50 ans, on n'avait pas ce réflexe. Il faut avoir le même réflexe pour l'infarctus du cerveau. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui d'un seul coup commence à plus pouvoir parler ou qui commence à plus pouvoir bouger un bras ou quelque chose qui se passe, il faut que cette personne aille dans ce qu'on appelle un stroke center, il y en a 6 à Paris aujourd'hui, pour qu'on lui fasse ces images qui vont permettre de voir, parce que c'est la seule méthode, s'il y a une région qui est en train de mourir. Avec un peu de chance, aujourd'hui, on a un traitement, c'est ce que j'appelle du desktop, c'est pas ce nom-là, hein, mais qui débouche les artères, donc on injecte ça, et ça dissout le caillot, et je l'ai vu de mes propres yeux, en une minute, la personne qui était paralysée ne l'est plus. Je sais pas si vous vous rendez compte. On passe d'un état où quelqu'un est paralysé à vie, à quelque chose où ça prend une minute, pour qu'il n'y ait plus rien. Voilà, donc, aujourd'hui, en France, on a eu un certain retard, mais je crois que c'est pas si mal. On a des stroke centers, on a de l'IRM, le SAMU sait, mais ce qui ne va pas, c'est que le public ne sait pas. Parce qu'autrefois, la grand-mère, parce qu'au final c'est la grand-mère, qui commençait à avoir son truc, et, bon, et puis on attendait 2 jours, 3 jours, c'est trop tard. On a 6 heures. On a 6 heures pour travailler. Voilà, donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Alors, rapidement pour terminer, avec l'imagerie de diffusion, on va encore plus loin que ça. Donc voilà toutes les molécules qui diffusent dans votre cerveau, tout le monde, hein, vous, moi, tout le monde. Eh bien, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, si vous vous rappelez du début de mon exposé, la matière blanche, c'est quoi? Ce sont des câbles qui relient les différentes régions cérébrales entre elles, ce qu'on appelle les axones. Eh bien, on sait maintenant que la diffusion de l'eau est plus rapide dans le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire. On comprend à peu près pourquoi, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Eh bien, grâce à ça, on est capable de faire des images maintenant de tout le câblage intracérébral, Donc on est capable, dans mon ordinateur par exemple, de voir comment tout ça s'est câblé. C'est la première fois au monde qu'on peut le faire. Et on commence à s'apercevoir que c'est extraordinairement intéressant. Un bébé de 2 mois, avec le bébé de 2 mois, il est déjà câblé, il ne parle pas encore, il ne voit pas encore, parce que ces câbles-là ne conduisent pas encore bien. Au fur et à mesure que le cerveau du bébé va se développer, ces câbles-là vont être branchés correctement, l'information va passer, et du jour au lendemain, le bébé va marcher, va parler, etc. Voilà. Donc, vous voyez ces images fabuleuses que l'on fait aujourd'hui du câblage intracérébral. Les États-Unis ont mis 30 millions de dollars pour maintenant, en utilisant ma méthode, pour arriver à voir les connexions, à faire un atlas des connexions intracérébrales chez l'homme. On s'aperçoit, par exemple, dans la schizophrénie, sans doute, il y a des problèmes de connexion entre régions cérébrales. Voilà. Et pour ceux qui jouent du piano, ou d'un autre instrument, mais c'est pour des pianistes, grâce à cette technique, on s'aperçoit, par exemple, que la matière blanche, dans certaines régions cérébrales, se développe directement en fonction du nombre d'heures jouées. Par exemple, si vous apprenez du piano avant l'âge de 11 ans, vous voyez que selon que vous avez passé 500, 1000, 1500, 2000, 3000 heures de piano à travailler, eh bien, cette région du cerveau va se développer de plus en plus. Pendant que vous apprenez du piano à l'adolescence, donc entre 12 et 16 ans, eh bien, vous voyez qu'il y a d'autres régions qui vont se développer, mais il faut plus d'heures pour arriver à les développer. Et si vous continuez à travailler au piano, parce que ce sont des professionnels, vous voyez 15 000, 30 000, 40 000 heures de piano, ça commence à faire une paye, hein, eh bien, chez l'adulte aussi, il y a des changements, mais il faut plus d'efforts. Donc c'est vrai pour le piano, c'est vrai pour tout. Plus on est jeune, plus on apprend vite. Donc profitez-en, ça ne durera pas. Pour moi, c'est trop tard. Voilà, tout ça, c'est quand même important comme message. Et nous, on en a la preuve maintenant. Donc, non seulement on peut développer les régions cérébrales, comme je vous l'ai montré au début, mais le câblage aussi se développe. C'est comme si votre ordinateur, vous lui mettez des logiciels, c'est bien gentil, mais que lui-même était capable d'hypertrophier certaines puces ou de se recâbler autrement pour être plus performant. Enfin, le jour où on fait un ordinateur comme ça, ça changera un petit peu les choses. Alors, pour terminer, notre cerveau, il est buggé. C'est un peu comme Microsoft, voilà. Donc, là, vous voyez soit un vase, soit deux visages. Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. D'accord? Et comment est-ce que vous pouvez choisir? Vous ne pouvez pas. En fait, ce qu'on a montré, mais c'est compliqué, donc je ne vous montre pas les images du cerveau, on montre que votre cerveau sait avant vous ce que vous allez voir. Autrement dit, votre cerveau est dans un état chaotique, un peu comme quantique, il oscille. Donc si à un moment donné, quand vous allez regarder l'image, votre cerveau est dans un certain état, vous verrez un vase. Si dans un autre, vous verrez les visages. Donc, comme on dit, vous voyez, peut-être qu'on n'a pas le contrôle vraiment sur son cerveau. C'est le cerveau qui vous contrôle, en fait. Et regardez ça aussi, c'est très connu, hein. Voilà, il n'y a aucun point noir. Ces points noirs, c'est votre cerveau qui les fabrique. D'accord? Donc, et plus vous regardez le point noir, et plus il part ailleurs, hein. D'accord? Donc, il y a des bugs. Donc ces bugs sont intéressants parce qu'ils nous montrent les failles du système et ça nous permet de peut-être mieux comprendre. Mais on voudrait aussi pouvoir éventuellement corriger ce bug. Alors, on n'a pas d'upgrade, on n'a pas ça, donc il faut trouver d'autres méthodes. Donc Neurospin, c'est ça, c'est un centre de recherche où on fabrique des instruments de plus en plus puissants pour voir des structures très très fines dans le cerveau. Donc c'est un peu comme le CERN à Genève, où on a développé des instruments physiques considérables pour voir le fameux boson de Higgs, je ne sais pas si vous avez parlé de ça en physique. Donc, à Neurospin, on est en train de construire les mêmes équipes qui ont fabriqué les aimants pour le boson de Higgs, maintenant font l'aimant qui va être le premier au monde, un aimant de 5 mètres de taille, qui va faire 11,7 Tesla, c'est-à-dire 240 000 fois le champ terrestre, pour arriver à faire des images extrêmement précises du cerveau. On n'en est pas là, parce que cet aimant-là sera livré en 2013, et vous voyez, par exemple, cette fameuse hippocampe qui est hypertrophiée chez les chauffeurs de taxi, eh bien, elle est atrophiée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir cette région-là très bien et de voir les plaques de la maladie d'Alzheimer à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas mal, mais on n'y est pas encore. Et on espère que, quand on va monter à très haut champ, on va pouvoir les voir. Donc, pour ça, on a un bâtiment magnifique. On a un architecte de génie qui nous a fabriqué un super savant, malheureusement il est décédé il y a un peu plus d'un an. Donc chaque arche contient un aimant de plus en plus puissant. Ça va donc 60 000 fois la champ terrestre jusqu'à 340 000 fois la champ terrestre. Donc quand ça a été construit, ça ressemble un peu à une station de métro, mais c'est pas pour mettre un métro, c'est pour mettre un aimant. Et puis il y a ces arches qui sont magnifiques. Voilà à quoi ça ressemble. Donc l'été on fait du skate, l'hiver on fait du ski, mais c'est vraiment magnifique. Il nous a fait un beau bâtiment. Voilà. Bien. Et à l'intérieur, donc vous voyez que ça ressemble à ça. On a de temps en temps des expositions d'art, parce que je crois beaucoup que le cerveau, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie, mais c'est l'enseignement, c'est l'éducation, c'est la création artistique, c'est la perception artistique. Voilà, je m'arrête là, parce que ça fait déjà pas mal de temps. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci.